En 1859, 6 ans après le fiasco de la Traviata, Venise recevait la visite d'un hôte illustre parmi tant d'autres autres illustres, Richard Wagner.
Lorsque le 29 août, au coucher du soleil, et de la digue du chemin de fer, nous aperçûmes Venise dressée sur le miroir de ses eaux, Karl eut un mouvement si brusque de joie et d'enthousiasme que son chapeau vola par la fenêtre de la voiture. Je ne voulus pas demeurer en reste, et lançai également le mien par la portière. Nous arrivâmes donc tête nue à Venise. Tout de suite, nous prîmes place dans la gondole qui devait nous transporter à la Piazzetta di San Marco. Le temps s'était subitement obscurci. La vue de la gondole m'effraya, franchement. Malgré tout ce que j'avais entendu dire de ces embarcations peintes, noires sur noires, leur aspect me produisit une surprise désagréable. Lorsque, dans la nôtre, il me fallut me glisser sous le drap noir qui lui servait de toit, j'eus l'impression de me trouver dans un convoi de pestiférés. Karl m'assura qu'il en arrivait de même à tout le monde, mais qu'on s'y habituait bien vite. Puis ce fut le très long trajet du sinueux Grand Canal. Rien de ce que je voyais ne parvenait à m'ôter mon inquiétude. Là où Karl admirait la Cadoro de Fanny Elsler ou tout autre palais célèbre, moi, je n'apercevais que les ruines gisant entre ces édifices intéressants. Je finis par ne plus rien dire et consentis à débarquer à la fameuse Piazzetta pour visiter le palais des Doges. Mais je me réservais de l'admirer quand je serais débarrassé de l'humeur mélancolique où m'avait jeté mon arrivée à Venise. À l'hôtel Danieli, où nous descendîmes, on nous donna de tristes chambres ayant vue sur de petits canaux étroits. Aussi, dès le lendemain matin, j'allai à la recherche d'un logis qui me convint pour un long séjour. J'appris que, dans l'un des 3 palais Giustiniani, non loin du Palazzo Foscari, il y aura quelque chose à louer, car les étrangers l'évitaient en hiver à cause de sa mauvaise exposition. J'ai trouvé en effet des pièces extraordinairement vastes, dont la plupart, m'assura-t-on, demeurerait inoccupé. Je me réservais donc un énorme et imposant salon, avec une grande chambre à coucher contiguë, et me hâtais d'y faire monter mes bagages. Et le 30 août, au soir, je pouvais me dire que j'étais fixé à Venise. Pouvoir travailler sans être dérangé avait été l'unique préoccupation de mon choix. J'écrivis aussitôt à Zurich pour qu'on m'expédiât mon érard et mon lit. Et je me doutais bien que j'apprendrais à connaître le froid à Venise. De plus, les murs grisâtres de mon salon me devinrent bientôt insupportables à l'œil. Ils s'accordaient trop mal, me semblait-il, avec un plafond de bon goût entièrement peint al fresco. Je me décidai donc à les faire recouvrir d'une tapisserie fort ordinaire, mais de couleur rouge foncé. Ce travail amena à bien du remue-ménage. Cependant, ces désagréments me paraissaient supportables quand, de mon balcon, j'admirais avec un plaisir grandissant le superbe canal et que je me disais « C'est ici que j'achèverai Tristan ». Pendant une nuit d'insomnie, étant allé sur mon balcon vers 3 heures du matin, j'entendis pour la première fois le célèbre et ancien chant des gondoliers. Je crus reconnaître que le premier appel, rauque et plaintif, qui résonna dans la nuit silencieuse, venait du Rialto, situé à une distance d'un quart d'heure environ. Une mélopée analogue lui répondit de plus loin encore. Ce dialogue extraordinaire et mélancolique continua ainsi par intervalles parfois assez longs, et j'en fus si impressionné qu'il me fut impossible de fixer dans ma mémoire les quelques notes sans doute fort simples qui le modulaient. Un autre soir, je compris d'expérience toute la poésie de ce chant populaire. Je rentrai fort tard, en gondole, par les canaux sombres. Tout à coup, la lune se leva, éclairant et les palais indescriptibles, et mon gondolier qui maniait lentement son énorme rame, debout à l'arrière de ma barque. Au même instant, celui-ci poussa un cri qui ressemblait presque à un hurlement d'animal. C'était un profond gémissement qui montait en crescendo jusqu'à un « Oh !» prolongé et finissait par la simple exclamation « Venezia ». Il venait encore quelque chose, mais j'avais reçu une commotion si violente de ce cri que je ne pus me rappeler le reste. Les sensations que j'éprouvais là furent caractéristiques et ne s'effacèrent point de tout mon séjour à Venise. Elles sont demeurées en moi jusqu'à l'achèvement du deuxième acte de Tristan. Et peut-être m'ont-elles suggéré les sons plaintifs et traînants du chalumeau au commencement du troisième acte. Richard Wagner.